Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une mission consacrée au Liban, envisagée sous l'angle militaire sans doute dominant pour expliquer les dernières décennies de ce pays, à savoir la lutte toujours larvée et parfois ouverte entre Israël et le Hezbollah. Je vais avoir le plaisir de recevoir deux colonels successivement, qui sont des militaires, qui sont aussi des chercheurs, Michel Goya et Olivier Passot, qui vont nous permettre, disons, d'appréhender les grandes dynamiques de cette rivalité depuis le début des années 2000, puisque c'est aussi un peu le prétexte de cette émission. On a célébré il y a quelques semaines le 20e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban. Alors on va évidemment revenir sur tout ça, sur ce qui explique ce retrait et sur ce qui s'en est suivi. Et pour cette première partie de l'émission, ce premier chapitre en quelque sorte de notre revue de cette longue guerre entre le Hezbollah et Israël, chapitre qui est donc le conflit de 2006, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Michel Goya, historien et auteur que les auditeurs du podcast connaissent bien. Je me disais à l'instant que je pense que vous êtes plus très loin du record de passage dans le podcast. J'ai pas recompté récemment, mais il y a quelques mois, on avait une égalité parfaite entre Jean Michelin et Olivier Schmitt qui se tiraient la bourre, mais peut-être que vous les avez rattrapés depuis, ce qui évidemment s'explique par le grand plaisir pour tout le monde, et moi le premier, de vous écouter à chaque fois. Et au milieu de vos nombreux ouvrages, vous en avez consacré un à cette guerre de 2006, qui est vraiment assez passionnante d'un point de vue opérationnel, comme on va le voir. Un livre donc écrit avec le chef de bataillon Marc-Antoine Briand, alors à l'époque il était chef de bataillon, j'imagine qu'il a évolué depuis, qui a servi au Liban au sein du bataillon français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Livre qui est donc intitulé « Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée 12 juillet 14 août 2006, paru aux éditions du Rocher en 2014 ». Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Évidemment, dès qu'on parle du Liban, on pourrait facilement y consacrer une série de 20 émissions et on serait loin d'être au bout, donc il va falloir qu'on fasse des raccourcis. Je vais donc avoir le mauvais rôle et faire ces raccourcis. Et je vais donc essayer de planter le tableau de la situation en 2006, au moment où cette guerre éclate. Reprenez-moi évidemment si je passe un peu rapidement par-dessus un détail qui vous semble central, ce qui en écrivant cette introduction m'a paru complètement inévitable et évidemment que je vais tomber dans ce travers. Donc il faut rappeler que Israël avait envahi le Liban en 1982 en pleine guerre civile libanaise dans le cadre de l'opération nommée avec une certaine ironie tragique « Paix en Galilée ». Pour des raisons dans lesquelles on peut évidemment pas entrer maintenant, parce que ça nous prendrait 5 heures à peu près, mais dont je signale qu'elles sont notamment très bien étudiées par un chercheur de l'IRSEM, Elie Baranetz, dans son ouvrage « Comment perdre une guerre, une théorie du contournement démocratique », vers lequel je renvoie, comme vers le podcast qu'on avait fait avec lui l'an dernier. Donc, Israël envahit le Liban, et il se passe à cette occasion les tragédies qu'on sait, notamment les massacres de Sabra et Shatila. Mais pour autant, évidemment, Israël n'avait pas vocation à s'y maintenir, et l'armée israélienne, Tsahal, se retire donc en 1985 de l'essentiel du pays. Cependant, il continue d'occuper, en quelque sorte en gage, une bande de territoire au sud Liban, contre la frontière israélienne, ce qui leur permet d'avoir en quelque sorte un espace de protection, une sorte de glacis protégeant le territoire israélien. Et donc, après 15 ou 18 ans d'occupation, les Israéliens s'en retirent, il y a 20 ans, en mai 2000. Alors, peut-être commençons par là, expliquez-nous pourquoi ils s'en retirent, et surtout, quelles conséquences ce retrait en 2000 a pour les adversaires de Tsahal, en premier lieu le Hezbollah, c'est-à-dire la milice chiite libanaise, qui a grandi et, disons, prospéré pendant ce temps d'occupation.
Alors bon, il faut revenir un petit peu effectivement à l'origine, le pourquoi de la présence israélienne. Hein. C'est d'abord pour les questions de sécurité. L'objectif premier, c'était d'éliminer la menace que représentait l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui avait pratiquement formé une sorte d'État dans l'État au sud du Liban et qui servait de cette base pour attaquer le nord du pays. Et donc le projet israélien, c'est d'abord de détruire ce qu'on appelle le Fatahland, hein, de détruire l'armée de l'OLP, même de chasser éventuellement l'OLP de la région, et secondairement de modeler aussi d'une certaine façon le Liban en s'associant avec le clan Gemayel, qui était clan dominant chrétien phalangiste et qui était à ce moment-là au pouvoir. Et donc c'est en gros l'idée, c'est de neutraliser d'une certaine façon le Liban comme menace. Et donc ce projet réussi d'une certaine façon, au moins du point de vue de l'OLP, c'est-à-dire que l'opération OP en Galilée a eu au moins pour résultat opérationnel de détruire l'OLP en tant qu'organisation militaire, en tant que menace militaire. Mais le problème, c'est que l'OLP, finalement, a été remplacée par d'autres organisations. Elles sont nombreuses hein, au Liban, dont le Hezbollah qui a émergé à cette occasion.
C'est-à-dire qu'en 1982, donc, Israël intervient. Oui. Résout à moitié, disons, le problème de ces réfugiés palestiniens qui attaquaient Israël, mais évidemment, la nature ayant horreur du vide, un problème chassé, il y en a un autre qui apparaît.
Oui, c'est-à-dire que la présence israélienne et la présence aussi, on l'oublie, mais on a été quand même présents, nous aussi, Français, occidentaux, par le biais de la FINUL, qui a été créée quelques années auparavant, mais aussi par la force du multinational de sécurité de Beyrouth, où on a essayé, là aussi, de faire une opération de stabilisation, de calmer un peu les choses, ce qui a été absolument désastreux. Au passage, pour la France, c'est le plus grand désastre militaire. Le Liban était l'occasion du plus grand désastre militaire depuis la fin de la guerre d'Algérie, hein, pour nous, il faut quand même le rappeler.
Avec l'attentat notamment du Drakkar,
oui,
à Beyrouth.
Pas que. Hein. Oui, bien sûr. Il faut quand même rappeler.
Donc il y a un attentat où plusieurs dizaines de militaires français ont perdu la vie.
56 soldats sont tués. C'est, jamais autant de soldats n'ont été tués depuis français en une seule journée.
C'était
depuis,
en quelle année
en octobre 83. Mais au total, il y a eu autant de soldats français qui sont tombés en 18 mois dans cette opération qu'en Afghanistan en 11 ans. Et pas seulement au Drakkar. Et donc, oui, on est tombé dans un piège dont on pourrait parler, d'ailleurs, parce que c'est une expérience aussi traumatisante pour les armées. Dans la mémoire collective, c'est quelque chose d'extrêmement important.
On pourrait faire toute une sous-série du podcast, je pense, sur le Liban.
Sur le Liban, on pourrait faire beaucoup de choses, effectivement. Mais voilà, toujours est-il que, en gros, finalement, Israël se retrouve un peu embêté par sa victoire. Ils ont chassé l'OLP du Liban en tant qu'organisation, hein, encore une fois, structurée. Bon, et puis ils se retrouvent en situation, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement? On est là, et puis qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve face à d'autres organisations, effectivement. Le Hezbollah qui est créé en 1982, avec le parrainage de la Syrie et de l'Iran, et qui est un instrument anti-Israël, hein, en premier lieu.
Est-ce qu'il y a une certaine logique interne à ce moment-là? Enfin, je veux dire, il y a une armée étrangère qui occupe le Liban. Évidemment que dans une société aussi divisée et avec autant d'influence, notamment iranienne et syrienne, que le Liban, évidemment qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer. Quoi.
Ah non, mais bien sûr. Le Liban, 1983, le Liban, c'est la Gironde en superficie. Et à l'intérieur, il y a 150 000 hommes armés venant de 20 nations différentes et avec plusieurs dizaines d'organisations différentes.
Exactement comme la Gironde, quoi.
Voilà, à peu près. Et donc oui, alors ce qui se passe, c'est qu'Israël décide finalement de rester et de constituer militairement et de se protéger par un glacis, comme vous l'avez évoqué, donc, et d'occuper le sud, la zone tampon, en disant voilà, alors eux plus des forces locales associées, ce qu'on appelle l'armée du Liban Sud, en disant ben voilà, on va protéger le territoire en occupant cette zone, de la même façon qu'ils ont finalement occupé aussi les territoires palestiniens à titre de glacis, à titre de zone de protection. Quand même. Et puis ça se passe pas forcément comme prévu. Parce que il se met en place justement avec particulièrement le Hezbollah, ce n'est pas la seule organisation, mais c'est l'organisation principale qui se développe à cette occasion et qui mène une guérilla contre une lutte contre Israël au sud du Liban. Et c'est une guérilla qui va se révéler finalement efficace, très coûteuse pour les Israéliens. Je crois qu'il va y avoir 1000 Israéliens ont perdu 1000 hommes, 1000 soldats, 1000 policiers aussi au Liban jusqu'en 2000. Donc c'est quelque chose qui était très coûteux et finalement suffisamment coûteux pour qu'ils décident d'abandonner. Quoi. Et ça correspondait aussi un peu à un changement de doctrine en se disant ben voilà, occuper la sécurité en occupant les territoires. En 2005, ils ont évacué également militairement Gaza, la bande de Gaza. C'est coûteux. C'est coûteux. On se fait harceler, on se fait attaquer. C'est coûteux. Donc on préfère assurer notre sécurité à distance. On va former un mur, on va créer un mur de sécurité. Et puis avec notre capacité de frappe, ben finalement, on aura le même effet. On assurera notre sécurité différemment. Donc c'est la raison pour laquelle lassés, usés, il y a quand même un général israélien qui a été tué par le Hezbollah au sud du Liban, c'est un des très rares exemples que l'on ait, ben finalement, oui, ils vont décider d'évacuer la zone, ce qui consacrera, bien évidemment, la victoire du Hezbollah la raison d'être, la force de ce Hezbollah, qui sera la première victoire, finalement, du Hezbollah contre Israël.
Ouais, bah, il faut le dire, du coup, parce que, du coup, vu que le Hezbollah s'est vraiment fondé et structuré dans ce contexte-là, donc comme une espèce de guérilla, mais en même temps, on va évidemment revenir dessus, c'est aussi plus qu'une guérilla, parce qu'il y a un niveau de structure, et il y a un niveau d'intégration, il y a un niveau d'organisation qui est très rare pour une guerre dissymétrique comme ça. Mais voilà, peut-être parlons des modes d'action du Hezbollah, à la fois de son implantation locale dans ce territoire qui est le sud Liban et puis autour la région, et puis comment dire, ce qui fait sa puissance, qui lui a permis d'amener à cette victoire, même si c'est une victoire incrémentale, mais qui se matérialise en 2000. Il y aura une grande victoire ensuite qui sera 2006.
Oui, alors la particularité du Hezbollah, d'abord c'est une organisation chiite qui recrute dans la population chiite libanaise, qui est la population la plus pauvre, la plus population déclassée, donc elle recrute dans cette zone. Alors c'était pas la seule, hein. Elle a été en concurrence avec l'organisation Amal notamment, mais elle a réussi à s'implanter. Et sa particularité, c'est que effectivement c'est une organisation complète. Alors c'est plutôt le cas effectivement des organisations chiites que des organisations sunnites. Sont souvent beaucoup plus fragmentés. Bon. On a d'autres exemples, hein, comme l'armée du Mahdi qui va se former en Irak, etc. Donc c'est une organisation complète qui est intégrée. C'est un véritable État dans l'État, en réalité, avec une armée, avec
un chef.
Un chef, bien sûr, un vrai.
Mais qui est un chef de guerre, quoi, qui est.
Un chef, une direction, un commandement collégial, enfin, qui est très organisé, une branche civile d'action auprès de la population. Le Hezbollah offre aussi une offre de justice, une offre administrative, une offre d'éducation, cette population, pour la plupart des hérités. C'est une
organisation. Il faut préciser que pour ceux qui sont allés au Liban, qui ont vu notamment dans la décennie 2000-2010, il y a des régions où c'est des villages Hezbollah, où tout est intégré par le Hezbollah, où c'est vraiment un mouvement qui englobe toute la société et qui, du coup, dont on comprend bien que le prolongement armé est en cohérence avec, disons, une espèce d'enveloppement de la société, enfin, en tout cas de certaines zones du Liban.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est une branche économique aussi. Hein, le Hezbollah a des sociétés, est un acteur économique très important du Liban. Donc c'est un véritable État dans l'État, une sorte de proto-État ou un État parasite, si on peut ou autrement. Donc c'est quand même c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est globalement l'organisation armée la plus puissante au monde, très probablement.
Non étatique, vous voulez dire.
Oui, ce qu'appelle l'organisation, c'est non étatique, effectivement. Et ça lui donne, oui, effectivement, une force considérable. Je donnerai juste un exemple, là j'anticipe un peu sur le conflit de 2006, mais juste après le conflit de 2006, je me souviens avoir vu des images où on voyait des membres du Hezbollah qui, juste après le conflit, quelques jours après, qui allaient voir tous les gens qui avaient été frappés qui avaient subi des dégâts par les combats, notamment par par les frappes aériennes israéliennes, et qui indemnisait les gens, qui disait, voilà, il faisait une estimation des dégâts, puis hop, sortait un chèque, et payait tout de suite les gens, tout ça filmé. Donc il y a aussi une intégration, il y a le Hezbollah, sa chaîne de télévision, tout un volet communication extrêmement sophistiqué, d'aide à la population, et alors que à ce moment-là, on réunissait à Paris un grand sommet international d'aide au Liban, dont les premiers résultats auraient lieu peut-être 6 mois plus tard, quoi. Et là, on avait une preuve de ce côté complètement intégré, complet. On appelle ça l'approche globale. Le Hezbollah fait de l'approche globale d'emblée, et ça marche très bien. C'est très efficace.
Ouais, mais alors, du coup, parlons de ce moment, en fait, d'entre-deux, quoi. Donc, après le retrait israélien en 2000 et avant le conflit de 2006. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment est-ce que le Hezbollah se reprojette dans ce Sud-Liban délivré, disons, de la présence israélienne, et comment est-ce qu'il se réorganise, et pourquoi est-ce que ça amène sa structure, en quelque sorte, vers le nouveau conflit qui va éclater à l'été 2006 ?
Alors, le problème, finalement, du Hezbollah, c'est justement sa victoire, là aussi. C'est pour reprendre un peu les... Comment dire, moi, je suis un grand admirateur de l'historien Toynbee, qui résonne en termes de défi-réponse. Le Hezbollah a été créé pour un défi, la présence israélienne au Liban. Bon, il a trouvé une réponse, il a réussi, et puis là, d'un seul coup, il se retrouve sans justification, forcément, sans légitimité. Donc, son obsession, mais sa politique, ce sera de continuer finalement le combat contre Israël. Israël n'est plus au sud du Liban, mais on dit, voilà, Israël continue à être une menace. Bon, elle occupe encore, alors, il y a une petite ferme, on appelle ça la ferme de la Sheba, donc c'est un petit territoire minuscule, contesté entre le Liban, la Syrie, Israël, on ne sait pas trop qui c'est, mais c'est occupé par les Israéliens, donc on dit, voilà, le Liban n'est pas encore complètement libéré, et donc il y a des actions militaires régulières dans ce coin-là, et puis il continue à faire pression sur Hezbollah. Il y a des attaques, avec nouveaux modes d'action, notamment des attaques à la roquette sur le nord du territoire. Et puis le Hezbollah associe aussi son combat avec les organisations palestiniennes, le Hamas, etc. Donc s'intègre dans un combat plus global contre Israël. Mais, encore une fois, la justification de l'existence du Hezbollah, c'est la lutte contre Israël.
Oui, on perçoit bien le risque existentiel pour, puisque c'est sa raison d'être, de ne plus avoir de lutte contre Israël. Mais donc c'est comme ça que ça éclate en juillet 2006, quand un commando du Hezbollah s'infiltre donc par-delà la frontière israélienne et tue 8 soldats israéliens et en enlève 2 autres. Et évidemment, Israël répond donc, mais ce qu'on comprend bien aussi avec ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire si on abandonne l'occupation et qu'on décide que c'est la capacité de réponse qui est la meilleure défense, quand il y a quelque chose comme ça, évidemment qu'il faut répondre extrêmement fort, et ça va être une réponse extrêmement forte avec un conflit qui dure à peu près un mois, on va y revenir, mais un conflit qui est passionnant, notamment du fait de la dissymétrie totale des forces conventionnelles. Israël a notamment la suprématie aérienne totale, le Hezbollah n'a pas d'avion et a quasiment pas de capacité solaire, et pourtant ça va être un résultat très mitigé, voire franchement une défaite, puisque en un mois, disons, Israël va perdre 119 hommes et avoir 750 blessés, ce qui est évidemment un niveau assez inacceptable pour une armée moderne, en tout cas dans l'esprit occidental, même si on ne sait pas exactement combien le Hezbollah a de victimes en face, mais il reste dans tous les cas que ça va être une défaite au moins apparente pour Israël. Alors comment expliquer ça malgré le décalage colossal des forces, en tout cas des forces conventionnelles telles qu'on les imagine?
Alors, Israël, déjà, a perdu parce qu'on n'a pas réussi, en réalité. Et c'est ça, c'est un peu paradoxal. Dans les faits, ça peut se discuter. Hein. C'est plus un résultat de jeu de go que de jeu d'échecs. Hein. Les deux camps ont des points à la fin. Hein. Bon. Là, Israël peut dire, à juste titre, qu'effectivement, ils ont frappé très fort et que depuis 2006, il n'y a plus d'attaque du Hezbollah contre le territoire israélien. Donc on dit, voilà, finalement, on a dissuadé le Hezbollah. Bon. En réalité, quand on revient sur le moment, les objectifs tout de suite qui ont été fixés par Ehud Olmert, le Premier ministre, c'était, voilà, on va détruire le Hezbollah. Enfin, d'abord, on va récupérer nos deux prisonniers et ensuite, on va écraser le Hezbollah.
Il ne faut jamais négliger l'importance dans la mentalité israélienne de récupérer les prisonniers et de ne pas laisser d'otages et de ne pas laisser d'hommes derrière. C'est ça qui déclenche généralement le feu du ciel de la part d'Israël.
Exactement. Mais Et donc, oui, il y a eu des objectifs en réalité très ambitieux qui ont été lancés dès le départ. Et à partir du moment où vous ne les atteignez pas, ou à partir du moment où Israël résiste, où le Hezbollah résiste effectivement au feu du ciel, une puissance, les Israéliens ont lancé plus de bombes, de munitions en tout genre sur le Hezbollah, enfin, essentiellement le sud du Litanie, c'est une région de 50 km sur 20. Hein. Deux fois plus de munitions contre eux que contre toutes les armées arabes pendant la guerre du Kippour. Quoi. Donc il y a un déchaînement de forces considérable. Et puis finalement, le Hezbollah a résisté. On va en reparler, mais et donc au bout du compte, voilà, quand David résiste à Goliath, quand vous résistez un round à Mike Tyson, bon, c'est un exemple un peu ancien quoi qui revient, mais c'est vous le vainqueur quoi en réalité. Hein. C'est et donc là, la surprise, c'est ça, c'est effectivement cette résistance.
Alors comment ça se fait, puisque donc Israël bombarde copieusement, puis bon c'est toujours des grands débats sur la supériorité, voire sur la suprématie aérienne, c'est l'idée qu'on peut pas vaincre uniquement par le ciel, il faut à un moment avoir des boots on the ground. Mais donc Israël va aussi déployer des hommes à terre. Qu'est-ce que fait le Hezbollah? Enfin, comment est-ce qu'il se cache? Enfin, j'imagine bien qu'il se cache, mais comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils combattent?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Hezbollah s'est structuré de 2000 à 2006. Le Hezbollah s'est à nouveau transformé. Au début des années 80, c'était une organisation clandestine, on va dire, qui s'est transformée ensuite en une organisation de guérilla, de lutte armée beaucoup plus importante en volume. Et en 2000, elle s'est transformée à nouveau, en l'espace de quelques années, en une armée, une structure armée adaptée à la guerre contre Israël. C'est-à-dire, très concrètement, ils ont mis en place un système, comme Israël d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est un peu la même doctrine, bouclier épais. Le bouclier, c'est un système défensif dans le sud du Liban, donc très clairement, ils ont creusé. À l'insu de tout le monde, hein, je rappelle qu'on travaille dans une zone où il y a la finule, il y a plein de gens, et personne n'a vu que le Hezbollah était en train d'édifier tout un réseau souterrain de défensif extrêmement...
De tunnels pour pouvoir circuler tranquillement.
Des tunnels, tout un ensemble de dépôts, alors avec une structure très décentralisée, des gens, ça rappelle de certaines formes de combat proposées par exemple en France par le commandant Brossolet, de défense complètement décentralisée. Voilà, il y a tout un maillage de petites cellules qui vont résister, avec une infanterie d'active qui est de très bonne qualité, quasi professionnelle, qui est bien équipée grâce aux sponsors, qui est notamment, je reparlerai, bien équipée d'équipements légers, missiles anti-char modernes, missiles anti-navire aussi, pas forcément modernes mais efficaces, on y reviendra. Enfin,
donc, les sponsors, on va rappeler toujours que ce sont les grandes puissances de la région, donc la Syrie et surtout l'Iran, qui ont qui les ont armés, puis aussi qui ont fourni probablement aussi un certain armement conceptuel en termes de
tout
théorie
à fait,
et d'organisation.
Les conseillers aussi de l'organisation CODES, enfin bon, des gardiens de la Révolution. Bon. Mais et aussi donc ça c'est le, si vous voulez, c'est le bouclier, voilà, la structure défensive solide. Et en même temps il y a une épée qui est une force de frappe Donc, ils ont une capacité de balancer des roquettes et des missiles, y compris à longue portée, contre Israël.
Alors ça, il faudrait peut-être se munir d'une carte, mais il faut dire qu'un missile à longue, disons moyenne longue portée, tiré depuis le sud Liban, ça peut taper Tel Aviv et Jérusalem. Ça pour, soit 70, 75 voilà. kilomètres.
Pour les systèmes les plus importants, les plus sophistiqués, ça peut taper jusqu'à Tel Aviv. En gros, ils ont, à ce moment-là, ils ont un arsenal de 15 000 projectiles en tout genre. Pour la plupart, ce sont des projectiles sans aucune précision et qui ne tirent pas très loin. Mais toujours est-il, il y a une capacité de frappe sur Israël. Donc ça, c'est le système qu'ils mettent en place et qui, en fait, va s'avérer extrêmement solide, extrêmement résistant. Et en face, on a aussi un système épais-bouclier. Alors, bouclier, c'est le mur de défense qui est en fait un mur plutôt anti-infiltration autour d'Israël. Il y a un mur anti-missile. Mais manque de chance, c'est pas des missiles balistiques, ce sont des roquettes et qu'on peut pas intercepter. Et puis il y a une capacité de frappe. En gros, voilà, la doctrine israélienne maintenant, c'est on frappe essentiellement par notre supériorité aérienne. Donc on multiplie les actions, éventuellement on fait des raids. C'est raids et frappe. C'est une doctrine de guerre cumulative. On fait pression. On bombarde jusqu'au moment où on obtient le comportement souhaité de celui qui est sous les bombes.
Et à ce moment-là, c'est le moment où les forces à terre peuvent intervenir plus efficacement.
Les forces à terre sont utilisées dans ce cadre-là, là aussi, pour faire des raids. Donc il y a surtout ne pas occuper le terrain, ne pas s'en emparer, parce que on s'englue dans quelque chose.
On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça
finit. Exactement. Donc on reste à distance, on tape. Voilà. En gros, c'est la doctrine, très simplement, c'est ça. Et on tape jusqu'à ce qu'en face, ça cède. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Il y a plusieurs étapes. Le 12 juillet, il y a ce raid commando Hezbollah, qui est pour le coup extrêmement sophistiqué quand même. Point de vue technique, c'est quand même assez remarquable. Il pénètre à l'intérieur du dispositif israélien, il tend une embuscade, il tend une deuxième embuscade contre l'élément de réaction rapide qui vient et détruit un char Merkava, ce qui est quand même pas facile. Et donc, parmi les Israéliens, il y a deux blessés, dont on prendra plus tard, qui sont décédés, mais qui sont capturés. Israéliens envoient, par exemple, des drones, un drone au-dessus du village où se trouvent apparemment ces deux prisonniers, puis ils voient, d'un seul coup, ils voient partir des véhicules identiques, partant tous dans tous les sens, et avec l'incapacité évidemment de les poursuivre, dans lequel se trouvent les deux prisonniers. Donc ce que je veux dire, c'est quelque chose de très sophistiqué.
Oui, c'est pas des pénicillés c'est un truc prévu, organisé.
Tout à fait, c'est du haut niveau. Alors pourquoi l'ont-ils fait, ça aussi, on peut se poser une question. Je pense que le Hezbollah a été surpris par la réaction israélienne, l'ampleur de la réaction. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a aussi une opération militaire qui est en cours contre le Hamas à Gaza. Et la première réaction israélienne, c'est de lancer une campagne de frappe contre la menace principale constituée par le Hezbollah, qui est sa force de frappe à longue portée. Ils détruisent, il y a une cinquantaine de lanceurs, ils détruisent cette menace. Bon, c'est qu'un succès, pour le coup. Et puis, on aurait pu s'arrêter là, quoi, essayer de négocier à ce moment-là. Bon. Et puis, les Israéliens décident de lancer à nouveau, en réalité, deux campagnes de raid et de frappe sur le Hezbollah directement, bon, mais aussi sur le Liban en réalité. Et l'objectif, c'est de faire pression sur le Liban, sur le gouvernement libanais notamment, pour qu'il applique une résolution qui a été signée quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, qui impose au gouvernement libanais, une résolution des Nations Unies, qui impose au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. Et donc l'idée, c'est on fait pression sur le gouvernement libanais pour que il s'attaque au Hezbollah. Et donc concrètement,
c'est assez, on peut pas s'empêcher de sourire quand on songe à la puissance relative du gouvernement libanais et du Hezbollah. C'est un genre de résolution qui mange pas de pain, qui est.
Mais oui, non, mais ça va aboutir à ravager le Liban.
Économiquement, vous voulez dire?
Entre autres, oui, ça va faire aussi plus de 1200 morts civils, quoi. Et à mon avis, ça va d'ailleurs avoir plus d'effets négatifs sur Israël, en termes d'image notamment, que d'effets positifs, quoi. Donc je pense que cette campagne contre le Liban, d'un point de vue stratégique, est une erreur complète, quoi. Et puis il y a la campagne contre le Hezbollah, et avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est de tuer Hassan Nasrallah, le chef. C'est de décapiter l'organisation. Donc on tape tous les bunkers, toutes les zones où on pense qu'ils se trouvent, notamment dans le banlieue sud de Beyrouth. Bon, c'est un échec.
Et oui, j'ai vu qu'ils ont lancé des raids terriens sur le village de naissance d'Hassan Nasrallah. C'est-à-dire,
oui, c'est symbolique aussi.
Mais en même temps, c'est un chef charismatique, chef militaire, chef qui est sous lequel vraiment tombe tout le mouvement. Mais du coup, si on l'attrape, c'est très bien. Si on l'attrape pas, ça devient très ennuyeux très rapidement.
Tout à fait. En notant au passage que si Hassan Nasrallah est arrivé à la tête du Hezbollah, c'est parce que les Israéliens ont tué son prédécesseur et se sont retrouvés avec quelqu'un qui était effectivement un stratège beaucoup plus brillant et qui n'ont pas réussi à ce jour, qui n'ont toujours pas réussi à éliminer. Donc ils essaient de décapiter l'organisation, il n'y marche pas, ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, ils s'aperçoivent que l'action... Il y a une action défensive du Hezbollah, bon, okay, mais il y a surtout une action offensive qui consiste à tirer des roquettes sur Israël. Alors ces roquettes sont...
Donc ça, c'est courte portée, puisqu'ils ont dit...
Courte portée, tape dans le nord d'Israël. Voilà, jusqu'à Haïfa, quoi. Là, ça fait relativement peu de victimes. Au total, il y aura une quarantaine de civils israéliens qui sont tués pour 4000 roquettes lancées, quoi. Mais surtout, c'est une démonstration... que c'est une sorte de pied de nez, d'une certaine façon. C'est, voilà, regardez, écoutez, voilà, nous, on tire des roquettes, on tire 100 à 200 roquettes chaque jour, et vous n'allez pas nous en empêcher, quoi. Et
donc, oui, c'est ça. Les missiles longue portée, vous avez réussi à les avoir, ouais, mais on va quand même balancer des roquettes dans tous les sens, et vous allez voir, ça va être pénible.
Et vous n'allez pas réussir à nous en empêcher, quoi. Et ça, c'est pénible. C'est une démonstration de force, en réalité, surtout. Et donc Israël va s'acharner à essayer de détruire tous ces lanceurs. On va s'apercevoir. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en point de vue technique, israélien, on va dire, écoutez, regardez, on a autour de cette zone, on a tout un réseau, on appelle ça ISR, enfin de renseignements, de captations, de détecteurs. On détecte tout. Il y a une roquette qui est lancée par un lanceur est repéré immédiatement. Hop, dans les minutes qui suivent, on a une frappe sur la zone et le truc est détruit. Bon. Sur quoi le Hezbollah répondait, mais écoutez, pas de problème, on l'a anticipé depuis très longtemps, et vous pouvez détruire ce que vous voulez, de toute façon on en a des milliers, ça ne coûte pas cher, ce sont des systèmes qui pour la plupart sont automatiques, donc voilà, on tire, puis après on s'en va.
C'est-à-dire on met un minuteur, et vous tapez même pas un membre du Hezbollah, c'est juste le lanceur lui-même. Quoi.
Le lanceur lui-même, c'est pas grave, c'est du consommable. C'est donc très bien, bravo pour la performance, mais en fait ça sert à rien, au bout d'un moment. Et donc on se trouve dans une deuxième phase où effectivement ça patine, on augmente les doses de frappe considérables, et puis finalement ça n'empêche pas le Hezbollah de continuer à tirer. Au passage, le Hezbollah réussit quand même à taper une corvette au large de Beyrouth, une corvette ultramoderne israélienne qui se fait frapper par un missile anti-navire au large de Beyrouth. Donc au vu de tout le monde, tout le monde voit la corvette israélienne en train de flamber. Donc là aussi, point de vue symbolique, c'est considérable. C'est aussi symboliquement d'ailleurs aussi, c'est un peu ça témoigne aussi un peu de l'aveuglement, de la négligence un peu israélienne. En fait, ils ont sous-estimé très largement la menace et la capacité du Hezbollah. Et ils ont été un peu légers, notamment dans cette affaire, un peu négligents, et le payent. Et donc, dans une deuxième phase suivante, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il ne se passe rien. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut aller au sol, quoi. Il faut envoyer des... Donc, petit à petit, on commence à envoyer des... là aussi, et on s'aperçoit que on ne sait plus faire, en fait. Que
les Israéliens ont plus cette compétence de déploiement au sol.
Non, parce qu'ils ne pratiquent plus. Ils ne pratiquent plus des grandes opérations terrestres à grande échelle, quoi. Ils ne pratiquent plus que des toutes petites opérations de police dans les territoires palestiniens, à proximité, de très petite ampleur. Au passage, c'est intéressant, c'est qu'ils ont réorganisé leur logistique, quelque chose qui ressemble un petit peu aux bases de défense françaises en 2006, et ça va être un désordre absolument... ça va aboutir à un désordre logistique considérable à ce moment-là. Et bon... Il y a des chefs, des états-majors qui sont complètement dépassés par les événements, parce qu'ils ont complètement perdu des savoir-faire d'opérations à grande échelle. Voilà, tout simplement.
Alors à ça, il faut toujours rajouter, quand on parle d'Israël, la composition de l'armée, qui est évidemment toujours une donnée, puisqu'il y en a beaucoup qui sont toujours des réservistes. Il y a évidemment une armée de métiers professionnels, mais il y a aussi énormément de réservistes qui sont incorporés. Et on comprend bien que dans ce contexte-là, peut-être que les compétences se perdent plus vite, disons à l'échelle de plusieurs années ou de plusieurs décennies, que quand on a une armée entièrement professionnalisée qui ne fait que ça, que ça, que ça.
Alors, particularité d'Israël, c'est que c'est une armée très jeune. C'est une armée de conscription, jusqu'aux échelons en grade de contact, on va dire. Et c'est une armée très jeune, ce qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, notamment de ne pas avoir de mémoire ni d'expérience. C'est une armée qui oublie très vite. Et donc là, en 2006, il n'y a plus personne qui a connu les combats des années 80, par exemple. Les derniers combats à grande échelle menés par l'armée israélienne, c'est l'opération Paix en Galilée, quoi. Et bon, plus personne ne sait faire ça. Il n'y a plus personne. Et il y a ça. Et ensuite, il y a effectivement une réduction des ressources, des réservistes en particulier, qui sont devenus complètement un peu négligés quand même, très largement dans cette affaire. Les réservistes, ils servent justement pour les grandes opérations, quoi. Et puis comme il n'y en a pas, finalement, bon, là aussi, on a fait quelques économies là-dessus. Et puis quand il a fallu à nouveau le déployer, on s'aperçoit que ils sont parfois plus mal équipés que le Hezbollah, que les gens qui combattent, et que tout ça est géré dans un désordre absolu. Et puis quand on est habitué à mener des petites opérations très ponctuelles de quelques centaines d'individus, ou quelques milliers vraiment très grand maximum, d'un seul coup, il faut gérer... Vous avez l'équivalent de la force opérationnelle terrestre qui est engagée d'un seul coup en quelques jours, quoi. Et là, les états-majors sont saturés, par exemple, d'informations, quoi. Et quand il y avait un soldat qui était tué dans une opération, bon, tout s'arrêtait, quoi, à ce moment-là, enfin avant. Et puis là, bon, d'un seul coup, on renoue aussi avec la violence, l'intensité des combats. Et ça trouble énormément les Israéliens, qui s'aperçoivent qu'ils sont extrêmement maladroits. Lorsqu'il faut changer de portage, il faut sortir de cette juste pure campagne de frappe et de raid, et qu'il faut mener des opérations importantes, notamment à Bin Jebel, donc c'est le lieu de naissance d'Hassan Nasrallah, donc c'est la ville qui est au centre, c'est un peu la capitale du sud Liban qui est au centre, et il faut essayer de s'en emparer. Et bien, en fait, ça va durer pendant un mois et ils vont pas réussir en réalité, quoi. Et donc c'est cette grande maladresse aussi qui va surprendre tout le monde.
Mais alors, donc, on voit bien que c'est, disons, un niveau d'incompétence, mais en tout cas d'inefficacité inacceptable pour Israël. Et alors que c'est parce que c'est ça, en fait, ça va déboucher. On peut discuter, on en a parlé tout à l'heure, de si c'est une défaite ou une non-victoire ou une semi-victoire. Enfin, on peut discuter du niveau d'efficacité de l'intervention. Mais en tout cas, quand on était resté sur le paradigme de paix en Galilée, puis même avant de guerre du Kippour, de la guerre des six jours, on voit bien qu'une intervention comme ça, c'est inacceptable. Et alors que c'est une intervention qui avait un grand soutien de la population israélienne au début, on voit que ça baisse extrêmement vite, et notamment la cote du premier ministre de l'époque, donc Ehud Olmert, chute vertigineusement. Et de l'autre côté, évidemment, le Hezbollah le voit, le dit, le construit comme une victoire divine même. Donc, comment dire, quel bilan on fait de ça, de 2006? Est-ce que c'est un bilan... Il y a un binôme victoire-défaite médiatique qui est absolument évident. Israël a perdu médiatiquement, le Hezbollah a gagné médiatiquement. Au-delà de ça, quelles sont les conséquences, disons, opérationnelles comment est-ce que, disons, ça modifie l'équilibre des forces dans ce point de contact qu'est le Sud-Liban, puisque c'était bien le problème qu'il s'agissait de résoudre au départ, au moment de l'intervention de 2006?
Alors, ça aboutit finalement à une forme de dissuasion mutuelle. Israël n'a plus attaqué parce qu'il y a eu l'opération 82, mais il y a eu l'opération 118, il n'y a plus. Enfin bon, depuis, il y a une sorte. Tout le monde s'est calmé. On n'ose plus attaquer.
C'est plus l'arrière-cour d'Israël, quoi.
Non. Et inversement, le Hezbollah se méfie également, quoi. Et donc, finalement, le combat, d'ailleurs, entre les deux, c'est un peu déporté en Syrie, en réalité. Depuis, le Hezbollah s'est encore renforcé. Il a reconstitué son arsenal avec l'aide iranienne. Sa force de frappe est plus importante que jamais. Ses capacités militaires se sont renforcées du fait, d'ailleurs, de son expérience aussi en Syrie, hein, où il constitue, les forces du Hezbollah constituent quand même les fers de lance. C'est l'infanterie d'élite des forces pro-Assad, du régime, au soutien du régime d'Assad. Donc le Hezbollah est plus fort que jamais, militairement, incontestablement. Inversement, de l'autre côté, du côté israélien, il y a eu quand même une grande remise en cause. Après le conflit, il y a eu une commission qui a été mise en place. Ça ressemblait un petit peu à ce qui s'était passé après la guerre du Kippour. Là aussi, les déboires du début de la guerre du Kippour, ça a été le révélateur d'un certain nombre de faiblesses qui avaient été accumulées. Là, de la même façon, il y a eu une grande remise en cause. Il y a eu un certain nombre d'évolution dans le militaire, hein, et on s'est aperçu après, lorsque les campagnes suivantes qui ont eu lieu, assez similaires, qui ont eu lieu contre le Hamas, se sont déroulées différemment, mais le Hamas lui-même aussi a évolué, s'est adapté, et le dernier conflit de 2014, par exemple, a été beaucoup plus difficile à mener pour Israël, parce que là aussi, le Hamas était monté en gamme, comme l'avait fait le Hezbollah. Et donc, on se retrouve, tout ça, c'est un peu le symbole, si vous voulez, d'une tendance forte, point de vue militaire, qui est celle de la montée en puissance des organisations armées, de certaines d'entre elles, qui deviennent aussi fortes, aussi puissantes que des armées régulières, au moins dans leur zone. 2006, d'ailleurs, à cet égard, c'est une année importante, point de vue militaire, puisque je pense que c'est une année charnière. Donc il y a ce révélateur un petit peu au Liban, mais c'est l'année aussi où les Américains sont englués en Irak et sont incapables de résoudre notamment la situation à Bagdad, qui est en plein chaos, où ils pensent se replier à ce moment-là, avant finalement de retourner la situation. Et c'est aussi l'année où, en Afghanistan, l'ISAF, donc la Force internationale de sécurité, décide de prendre en compte le sud du pays. Et là, elle se retrouve confrontée à une menace, des forces qu'elle ne soupçonnait pas et qui la mettent en échec. Et donc, c'est l'année, en réalité, où la forme de guerre, on va dire, modèle occidental, moderne, de haute technologie et de guerre à distance, se trouve mis en échec par des organisations armées partout. Et la vraie tendance forte, depuis d'ailleurs, on notera que toutes ces armées, aucune des organisations armées dans le Grand Moyen-Orient n'a été vaincue, n'a été détruite en tout cas par Israël ou les États-Unis ou même n'importe quelle autre puissance occidentale. Quoi. Donc il y a, ça a été un symbole. Et depuis, il y a une sorte de, pour Israël, une sorte de statu quo qui s'est mis en place, une sorte de neutralisation un peu réciproque, qui est un peu le cas aussi maintenant du côté de face au Hamas. Et on se retrouve dans une situation un petit peu de blocage et d'impuissance, où Israël finalement se barricade de plus en plus. Il y a des murs de plus en plus sophistiqués, des trucs qui vont intercepter les roquettes. Il y a tout un tas de systèmes de boucliers qui est extrêmement défensif, qui est extrêmement sophistiqué. C'est plus. La dernière fois qu'ils ont fait la guerre contre le Hamas, il y a eu 64 morts au combat, au sol israélien, du côté israélien. Quoi. Quasiment, on est au même niveau que la guerre de 2006. Et ça, c'est techniquement, militairement, c'est un problème qui est difficile à résoudre.
Très bien, merci beaucoup Michel Goyard. Donc je rappelle votre livre, donc écrit en 2014 avec Marc-Antoine Briand, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée 12 juillet 14 août 2006, qui entre bien plus dans le détail évidemment qu'on a pu le faire à l'instant, sur tous les côtés notamment opérationnels de cette guerre de 2006. Merci beaucoup.
Merci.
Et maintenant, donc, pour prolonger tout ça, toute cette longue histoire de la lutte entre Israël et le Hezbollah par des perspectives plus contemporaines, par les chapitres suivants, en quelque sorte, de cette opposition entre ces deux puissances, j'ai maintenant le plaisir d'avoir en ligne le colonel Olivier Passot, chercheur associé à l'IRSEM, et qui a signé en janvier dernier une excellente note de recherche, comme toujours évidemment disponible en ligne, intitulée « La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah, la centralité du renseignement ». Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors, on va reprendre un peu là où on avait laissé la situation avec Michel Goyard, à savoir au lendemain de la guerre de 2006. Et je vais peut-être commencer par vous poser la question, par la même question avec laquelle on avait fini avec Michel Goyard, c'est-à-dire la question en quelque sorte du bilan, du retexte, du retour d'expérience, du point de vue israélien. Disons, quelles sont pour vous les principales leçons ou du moins les critiques opérationnelles qui ont été retenues de ce qui est sinon, à travers cette guerre de 2006, sinon une défaite, du moins une non-victoire, et en tout cas certainement un revers du point de vue de l'image de l'armée israélienne.
Oui, en fait, la guerre de 2006 a été l'occasion pour le Hezbollah de tenir en échec l'armée israélienne pendant toute la durée du conflit, qui a duré 33 jours, et cette mise en échec se caractérise par exemple et notamment par la capacité du Hezbollah à tirer des projectiles, roquettes et missiles sur le territoire israélien pendant toute la durée du conflit. Donc les Israéliens ne sont pas parvenus à faire taire les départs de roquettes. Si on parle du bilan de cette guerre, en fait, on peut se reporter à la commission Vinograd, qui est un groupe de travail qui a été mis sur pied peu de temps après la fin de la guerre. Vinograd, c'est un ancien juge israélien, donc qui a été mandaté par le Premier ministre Olmert pour faire le point et pour essayer d'identifier les causes de cette mise en échec. Et donc il y a beaucoup de points au niveau macro jusqu'au niveau vraiment tactique. À un niveau stratégique, les buts de guerre n'ont pas été atteints puisque finalement le Hezbollah n'a pas été neutralisé, n'a pas été réduit. Il est, effectivement, au sortir de la guerre, il y a eu une forte attrition, mais il n'a pas été neutralisé du tout. Ils ont continué à pouvoir tirer les roquettes, comme je vous l'ai dit, à un rythme même sous la pression des frappes aériennes israéliennes. Les buts de guerre n'étaient pas non plus très clairs. Lorsque les Israéliens ont décidé de rentrer en guerre et de réagir à cette embuscade du Hezbollah, en fait, c'était au départ pour récupérer les deux soldats pris en otage et pour une opération finalement assez limitée. Après, il a été question de neutraliser de l'Hezbollah. Puis, il a été question de faire d'arrêter les roquettes qui tombaient sur Israël. Donc tous ces buts étaient à la fois pas clairs pour les populations, mais surtout pour les militaires israéliens qui ont été engagés. Il y a également une impréparation des Israéliens, de l'armée israélienne, qui était surtout habituée à faire du contre-terrorisme dans les territoires palestiniens dans les années 2000 et qui a été surprise par la capacité opérationnelle très 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 importante du Hezbollah. Le processus de décision politico-militaire qui n'était pas efficace. La mise en danger des populations civiles au nord d'Israël par ces tirs, puisque les roquettes sont tombées jusqu'à 70-75 km jusqu'en dans la profondeur du territoire israélien. Et puis, mais ça on va peut-être en parler plus en détail, des critiques qui portent sur le renseignement, en particulier la méconnaissance du Hezbollah. Donc, contrairement au groupe palestinien des territoires de Cisjordanie ou de Gaza, que le renseignement israélien connaissait très bien parce qu'ils ont l'occasion de s'y frotter régulièrement. Comme vous l'avez bien décrit dans la série Fawza, dans le bunker, le Hezbollah, depuis le retrait israélien du Liban en 2000, ils n'ont pas vu que c'était un groupe qui avait progressé beaucoup. Dans le domaine toujours renseignement, il y a un manque de partage de l'information entre ce que savait, l'échelon central à Tel Aviv, le renseignement israélien proprement dit, et puis les unités au contact. Et puis, un manque de moyens en général et un manque de moyens, dévolus aux unités, aux échelons tactiques. Voilà, en gros, les griefs qui sont portés par cette commission Vinograd qui rend ses conclusions début 2008.
Alors ensuite, si on passe, donc on a bien compris, disons, les problèmes qui sont apparus, mais justement, ça va être intéressant de comparer ça à l'évolution qui s'en est suivie, puisque si on fait le bilan donc de ces 15 dernières années, depuis 2006, il faut bien constater qu'on est sur une sorte d'évolution parallèle de ces deux puissances qui se sont pas ou très peu affrontées directement, mais qui se sont quand même beaucoup remaniées, qui sont montées en puissance, sans pour autant qu'on ait eu, en tout cas pour l'instant, en quelque sorte, le révélateur qui serait un nouvel affrontement. Alors commençons peut-être par parler du Hezbollah, qui a évidemment capitalisé sur sa victoire, au moins apparente, de 2006, et dont, il faut peut-être commencer par là, que le Hezbollah a eu un autre grand succès opérationnel depuis, qui a concrétisé, qui a matérialisé en quelque sorte sa montée en gamme, c'est évidemment l'engagement en Syrie, aux côtés des troupes de Bachar al-Assad et des forces iraniennes, dont on rappelle au passage, comme on l'a vu avec Michel Goya, que c'était de toute façon par ailleurs les soutiens traditionnels du Hezbollah, même sur la scène libanaise.
Oui, alors sur les progrès du Hezbollah en Syrie, c'est vous l'avez bien rappelé. Le Hezbollah est pas, enfin, il y a une montée en puissance progressive à partir de sa création dans les années 80. Donc force de guérilla qui a combattu contre l'ennemi israélien qui occupait le sud Liban. Donc c'était de l'asymétrique. C'était encore de l'asymétrique globalement pendant la guerre de 2006. Et avec la Syrie, en fait, le Hezbollah devient un acteur à part entière puisque il arrive à manœuvrer des unités d'infanterie, de chars, de l'antichars. Donc c'est un vrai combat interarmes, de niveau bataillon, voire de niveau brigade. Il affronte cette fois-ci un adversaire qui est à sa portée, qui est aussi puissant que lui, hein, les groupes djihadistes en particulier. Et tout ça, en plus, en coordination avec l'armée syrienne et l'armée russe qui dispose d'une puissance aérienne. Donc il y a une coordination 3D qui n'existait pas jusque-là, parce que les seuls, le Hezbollah avait quelques drones, mais en gros, le ciel lui était toujours défavorable. Donc là, il y a un saut qualitatif. Donc ça, c'est la, je dirais, le Hezbollah est devenu un acteur militaire complet, capable à la fois de faire des actions de basse intensité, donc d'acteurs asymétriques du faible au fort, mais il est également capable de faire du combat interarmes conventionnel, et puis il peut agir dans d'autres champs de la conflictualité, comme le cyber, où ils sont pas mauvais. Ça, c'est un point très important qui inquiète les Israéliens. L'autre aspect, ce sont les roquettes.
C'est que par rapport, même par rapport à Israël, donc ça c'est la partie, c'est en quelque sorte la démonstration de force en Syrie, mais il y a aussi effectivement une montée en puissance de ce qu'on a vu, en fait, vous l'avez bien décrit, être en quelque sorte le socle de la puissance, ou en tout cas de la capacité de nuisance du Hezbollah, c'est-à-dire les capacités balistiques, donc les capacités à lancer des roquettes et même des missiles à moyenne et longue distance, qui pourraient donc toucher tout le territoire israélien.
Exactement. Alors s'agissant de ce stock et de cet arsenal balistique, alors, c'est le cauchemar des Israéliens, parce que déjà en 2006, ils ont bien vu que l'adversaire était résilient, et depuis ils n'ont cessé de progresser en jouant sur trois axes d'effort qui sont le nombre de projectiles, leur portée et leur précision. Alors, si on parle du nombre, aujourd'hui, selon les estimations des responsables israéliens, qui ne se cachent pas pour dénombrer la menace, on est autour de 100 000 ou 130 000 selon les experts. Donc c'est beaucoup plus qu'il y avait en 2006, hein, où on était plutôt à quelques dizaines de milliers, on était à peut-être 30 000 ou 40 000. Donc, ensuite c'est la portée, on n'est plus à 70 km de portée, mais on est à 200 voire 300 km de portée avec les missiles les plus performants, les Elzal et Fateh. Donc là, le sud du territoire israélien est largement battu, et cette allonge permet même au site de lancement de se déporter vers le nord. On sait que le sud de Liban est surveillé très méticuleusement par les capteurs israéliens, les avions, etc., les drones. Donc, il est avantageux pour le Hezbollah d'aller placer ses sites beaucoup plus au nord, de les disperser également pour avoir une capacité de redondance si ces sites étaient détruits par l'armée de l'air israélienne. Et puis la précision. Donc on était dans les années 90 et même 2000 sur des roquettes, donc pas dirigées, hein, pas guidées, qui tombaient un peu n'importe où. Alors quand on vise un grand espace, une ville, effectivement ça présente pas beaucoup de, c'est pas un gros inconvénient entre guillemets, si je peux me permettre. Mais si on vise un site à haute valeur ajoutée, comme des infrastructures qui peuvent être donc vitales, comme des aéroports, des ports, des centrales thermiques, la centrale nucléaire de Dimona, voilà. Dans ces cas-là, la précision est extrêmement importante. Et d'autant plus importante que les Israéliens ont développé une capacité antimissile qui est donc en plusieurs couches, notamment le fameux Iron Dome.
Ouais, mais alors ça, on va en reparler juste après. Mais pour terminer en quelque sorte avec le Hezbollah, donc on a bien compris, monter en gamme sur le champ de bataille, monter en gamme des capacités balistiques. Et j'ai appris en vous lisant qu'il semblerait qu'il y ait même des velléités plus ambitieuses encore. En tout cas, c'est à la fois ce qu'affirme le Hezbollah et ce que craint Israël. Disons d'attaquer directement, voire même d'occuper des bastions, enfin des petits territoires au nord d'Israël. C'est-à-dire il y a donc une volonté même de se déployer, de grignoter peut-être, si l'occasion se présente, le territoire israélien.
Alors ça fait partie du discours des cadres du Hezbollah et en particulier de Nasrallah. Donc depuis les dernières années, dans ses discours, il est plus dans une seulement dans une rhétorique de défense. Hein, c'était la résistance à Israël. C'est bien comme ça que Hezbollah a gagné ses lettres de noblesse. Mais maintenant, il veut défier l'adversaire sur son propre terrain. Donc effectivement, les roquettes, c'est déjà ça. C'est plus seulement on défend plus, mais on attaque. Et puis ils ont promis. Enfin, Nasrallah a promis et régulièrement dans ses discours, il dit on va attaquer la Galilée. On a les moyens pour le faire. Pour lui, en fait, dans ses rêves les plus fous, ça serait de prendre un gage territorial en territoire israélien, idéalement de prendre des otages, hein, c'est qu'un otage, ça vaut très très cher, parce que les Israéliens payent très cher pour leurs citoyens. On pense à Shalit, Caporal Shalit, qui a été échangé pour 1000 Palestiniens à l'époque. Donc, idéalement, ce serait de prendre des otages, ou à défaut de s'introduire dans un kibbutz au nord d'Israël, et puis de planter le drapeau du Hezbollah, d'y rester quelques heures avec éventuellement des commandos suicides, ensuite qui défendraient leur peau, comme ça. Mais ça serait une victoire stratégique. Donc, oui, il y a cette rhétorique d'attaque sur la Galilée, mais je ne sais pas s'ils y croient vraiment en termes opérationnels sur la durée.
Alors maintenant, si on prend en quelque sorte l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le côté israélien, ce qui est très intéressant, c'est que de voir si on regarde sur la longue durée depuis 2000 et depuis même avant, il y a un choix vraiment très explicite que vous décrivez de pousser la transformation et... C'est-à-dire non seulement de plus occuper de territoire, de plus avoir, disons, plus tenir la terre, comme c'était le cas dans les années 80 et 90, mais même d'éviter autant que possible la confrontation directe contre le Hezbollah, et vraiment de tout miser à la fois sur le renseignement et aussi sur les actions indirectes. Alors, quand même, commençons, puisque on est parti de là, et puis vous avez commencé à en parler aussi. Puisqu'il semble bien que ce soit quand même le principal danger, ou en tout cas le danger le plus direct du point de vue israélien, qu'est-ce qu'ils font, enfin quelles mesures ont été prises, alors j'imagine que c'est à différents niveaux, mais contre ces menaces de tirs de roquettes et de missiles par le Hezbollah.
Alors, vous avez tout à fait raison de dire que les Israéliens, en général, ont fait le choix de la non-guerre, ce qui peut sembler paradoxal quand on sait et quand on observe le renforcement du militaire du Hezbollah inexorable, on va dire. Mais avant de répondre tout à fait à la question, le choix de la non-guerre s'explique en fait parce que les responsables israéliens, d'une manière générale, estiment que la prochaine guerre sera extrêmement destructrice pour le Liban dans son entier. Parce qu'il est difficile, il est impossible de séparer le Hezbollah de son environnement et donc de traiter le Hezbollah, les cibles Hezbollah sans traiter des cibles non militaires, on va dire. Et que donc une confrontation qui serait quand même longue, qui serait au minimum de plusieurs semaines, déboucherait sur un véritable champ de ruines. Donc champ de ruines qui serait sur lequel en fait le Hezbollah sortirait sans doute renforcé. Et peut-être que d'autres groupes extrémistes, type Al-Qaïda ou autres, pourraient également émerger du chaos. Par ailleurs, les Israéliens rechignent à s'engager dans une guerre, en tout cas le leadership politique, parce que le temps politique est court en Israël. Les élections sont séparées de 4 ans. Souvent, le Premier ministre dissout l'Assemblée, dissout la Knesset dans la quatrième année. Donc, en fait, il a guère plus de 3 ans. Et là, pour cette nouvelle législature, Netanyahou est parti pour 18 mois. Il va laisser sa place à son adversaire Benny Gantz pour ensuite 18 mois à nouveau. Donc, 18 mois ou même 3 ans, c'est vraiment court pour lancer une guerre contre le Hezbollah, même si on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra la faire parce que le Hezbollah se renforce et on ne peut pas accepter d'avoir un adversaire de cette taille aux frontières. Mais c'est toujours mieux de laisser la responsabilité au successeur à plus tard. Donc, à partir du moment où ils ont fait le choix de la non-guerre, je dirais que la stratégie israélienne, elle s'articule sur 3 axes. On pourrait parler d'inopération, si on raisonne en termes de planification. Il y a la dissuasion, l'endiguement et le renseignement. Donc, dissuader, endiguer, renseigner. Si vous me laissez quelques minutes, je peux élaborer sur ces trois axes.
Bien sûr, allez-y.
Oui. La dissuasion a été, je dirais, élaborée en tant que concept, même si c'est pas un concept officiel. Hein. Si vous prenez la stratégie nationale d'Israël, qui est un document public, on ne parle pas de la dissuasion. Mais ça a commencé par une interview du général Eisenkot, qui était à l'époque commandant du front Nord en 2008. Et interrogé par un journaliste, celui-ci lui dit, général Eisenkot lui dit, nous réservons une riposte qui sera disproportionnée, dévastatrice, si jamais on reçoit des tirs de roquettes, et cette réponse ne visera pas seulement le Hezbollah, mais l'ensemble du territoire libanais. Donc, on est déjà dans la dissuasion, et cette dissuasion va ensuite s'affiner, ensuite dans les discours et même dans les publications. Même général Eisenkot, un peu plus tard, a écrit un article avec son camarade Siboni, qui est un ancien de Tzahal lui aussi, et qui parle de cette donc qui terrorise en quelque sorte ce concept qui ensuite finalement que s'approprie les principaux responsables militaires mais surtout politiques. Donc en promettant une destruction à l'ensemble du Liban et pas seulement en disant la prochaine, c'est on renverra le Liban 5 siècles en arrière, on renverra le Liban à l'âge de pierre, etc. Donc c'est une rhétorique qui est maintenant acceptée, admise par les responsables, les plus durs, hein, pas les colombes évidemment. Et ce qui est également à noter, c'est que ce concept de dissuasion a franchi la frontière puisque Nasrallah lui-même se l'est approprié à partir de 2010, où il a fait un discours célèbre. Il a dit, avec la verve qu'on lui connaît, si vous visez nos usines, nous allons détruire vos usines. Si vous voulez cibler l'aéroport de Beyrouth, on va détruire l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv. Si vous détruisez nos villes, nos villes et nos villes et nos villages, nous détruirons vos villes. Donc il y a vraiment une espèce de dissuasion réciproque qui se met en place à partir de là et qui s'inscrit dans une sorte de règle du jeu que les deux adversaires observent plus ou moins, sachant qu'ils sont assez symétriques l'un de l'autre. Donc ça, c'est pour l'aspect dissuasion. La deuxième ligne d'opération, ou la deuxième axe de la stratégie israélienne aujourd'hui, enfin, depuis la guerre de 2006, c'est l'endiguement. Et c'est ce qu'ils appellent, et ça ils l'écrivent dans leur document de doctrine, c'est la campagne entre les guerres. Donc la campagne entre les guerres, c'est un ensemble d'opérations ciblées qui sont en général effectuées à bas bruit, avec des moyens sophistiqués, militaires ou non militaires. Alors dans les affaires non militaires, on peut avoir l'élimination d'un haut responsable, comme l'élimination de Al-Mabrouk, qui était un dirigeant, cette fois-ci pas libanais, mais palestinien, dans un hôtel de Dubaï, en 2010, par un commando israélien qui était sous couverture avec des faux passeports. C'est également, là, pour le coup, sur des, avec une approche militaire, toutes les frappes aériennes en Syrie contre les objectifs Hezbollah ou Iran. Donc, ce que les Israéliens justifient comme étant une menace, car ce sont des convois logistiques qu'ils viennent renforcer en fait les capacités balistiques du Hezbollah. Donc, pour eux, c'est une ligne rouge. Et donc, ce sont des frappes d'attrition suffisamment significatives pour provoquer effectivement une attrition chez l'adversaire, mais pas suffisamment pour ne pas le forcer à réagir. Et donc, les Israéliens savent que le Hezbollah est également un acteur politique qui a une base électorale qui doit réagir si l'attaque dont il fait l'objet atteint un certain niveau. Donc, c'est cette idée de règles du jeu qui sont admises plus ou moins par les deux adversaires. On pourrait citer la dernière escarmouche, la dernière escalade en date qui était en août-septembre dernier, en été dernier, où on a eu donc deux drones qui ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth et qui ont provoqué des dommages relativement limités sur des infrastructures Hezbollah. Le Hezbollah, Nasrallah a promis une riposte. Il a effectué cette riposte. Donc le Hezbollah a effectué des tirs de missiles guidés anti-char contre un véhicule blindé le long de la ligne bleue, côté israélien bien sûr, sur la communauté dans la localité d'Avizim. Il n'y a pas eu c'était une frappe limitée et les Israéliens en fait n'ont pas réagi outre mesure. Ils ont même eu la politesse de faire semblant qu'il y avait des blessés parmi les soldats israéliens. Ils ont vidé des tubes de ketchup sur deux soldats qu'ils ont évacués ensuite pour donner la possibilité à Nasrallah et à Hezbollah de ne pas riposter à nouveau. لو رح اموت ميت مرة رح اعود ميت مرة مصقول الحسام حتى صفى جيشا يشبهني
Alors c'est intéressant que vous le formuliez en termes de dissuasion et enfin bon, à vous écouter on a parfois l'impression d'avoir un petit remake disons en version conventionnelle de la guerre froide des postures et du jeu à deux que ça a pu impliquer. Mais juste avant de vous laisser passer à votre dernier pôle qui est le pôle du renseignement, puisqu'on parle de dissuasion, on sait que en fait, un des piliers de la dissuasion, c'est le fait qu'on ait des dommages mutuels plus ou moins assurés. Mais en l'occurrence, il y a, en tout cas pour Israël, un dispositif dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, qui est au moins théoriquement est censé assurer une sorte de dissymétrie, c'est-à-dire s'assurer qu'au moins le Hezbollah puisse pas infliger trop de dommages à Israël. C'est le dispositif anti-missile, anti-roquette. Alors il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs itérations, mais le dernier en date, c'est le dispositif Iron Dome, qui est donc censé intercepter ces projectiles et donc éviter en quelque, éviter qu'il y ait une sorte de parité entre les deux et essayer au moins de limiter les dommages à moyenne et longue distance que pourrait faire le Hezbollah.
Exactement. Alors Iron Dome s'inscrit bien dans la dissuasion parce que c'est la dissuasion par déni. En fait, il y a deux formes de dissuasion. Si on prend la littérature autour de ce conflit par les chercheurs, dissuasion par punition, c'est en gros c'est le général Eisenkot qui dit on va détruire tout le Liban, on va détruire tout Hezbollah si on reçoit une seule roquette, on vous punit. La dissuasion par déni, c'est le message qui consiste à dire bon, vous pouvez toujours tirer des roquettes, vous pouvez toujours faire quelque chose, mais nous on a un ou deux coups d'avance, on a les moyens technologiques qui nous permet, une avance technologique qui nous permet de se prémunir contre toute menace. Donc Iron Dome, effectivement, c'est un ensemble de, c'est un dispositif qui s'articule autour de trois éléments, hein, c'est donc des radars qui vont détecter les départs de coups et ensuite anticiper les trajectoires, une intelligence, un système de commandement et contrôle qui va faire partir les missiles intercepteurs si la roquette va tomber sur une zone habitée ou sur une zone sensible, et puis le troisième élément évidemment c'est les missiles. Donc Iron Dome a été déployé, je crois, à partir du début des années 2010, donc après la guerre de 2006, mais aussi après les différentes confrontations avec le Hamas à Gaza. Et aujourd'hui, il couvre une bonne partie du territoire israélien, pas tout le territoire, parce que ça coûte très cher.
Mais alors justement, dans quelle mesure est-ce qu'il a été testé ou pas c'est-à-dire, on sait que le problème de ces dispositifs d'interception et de défense anti-aérienne, c'est que, enfin, surtout dans un contexte comme ça, c'est que ça se sature, quoi. C'est-à-dire, il y a une certaine capacité, et puis au-delà de certaines capacités, bah, il y a forcément des choses qui passent entre les mailles du filet. Donc, en quelque sorte, quelle est la confiance que les Israéliens ont dans Iron Dome, et puis est-ce que cette confiance-là a déjà été testée, en quelque sorte?
Alors, Iron Dome est activé très régulièrement, hein, parce qu'il y a aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de roquettes qui sont parties du territoire libanais, mais en revanche, de Gaza, il y en a beaucoup. Et le système Iron Dome n'est pas sûr à 100%, puisqu'il y a eu des roquettes qui sont tombées, même à Tel Aviv, il y a quelques mois. Je dirais qu'il y a deux failles principales. D'une part, il lui faut un certain temps pour s'activer et pour lancer un intercepteur. Donc, une roquette à très courte portée, hein, en dessous de 3 km, 4 km, il pourra pas être détruit par Iron Dome, parce que la trajectoire va durer moins de 20 secondes et c'est pas possible techniquement de faire partie d'une interception. Et puis, donc, comme j'essaie de l'expliquer, Iron Dome va en fait déclencher les missiles intercepteurs uniquement sur les roquettes ou sur les missiles dont la trajectoire est estimée tomber sur un point un point sensible. Mais si côté Hezbollah on tire simultanément un grand nombre de missiles très précis, il est probable que Iron Dome sera saturé et ne pourra pas traiter tous les projectiles en même temps. Et évidemment, le stock de missiles d'Iron Dome, il est tenu secret, on le connaît pas, mais il est certainement limité. On sait que le prix d'un missile intercepteur, c'est 50 000, 70 000 dollars peut-être. Bon, c'est peut-être, c'est à peu près 100 fois plus que, enfin, 10 ou 100 fois plus selon les catégories de missiles ou de roquettes qui peuvent être tirés par l'adversaire. Donc on voit bien là qu'il y a, en cas de conflit qui s'éternise, qui dure plusieurs semaines ou même plus, on peut imaginer que le stock de missiles Iron Dome sera épuisé. Et à ce moment-là, si l'adversaire dispose lui encore de roquettes et de missiles en état de fonctionner. On parle de 100 000 roquettes pour le Hezbollah. C'est une source de vulnérabilité importante pour l'IDF, pour les forces israéliennes.
Ouais, alors donc là on a bien les deux premiers pôles, donc dissuasion, endiguement. Mais donc on mesure aussi, à la lumière de ce que vous venez d'expliquer, sur le fait que ces capacités militaires de protection, de sanctuarisation du territoire israélien ne sont pas infinies. Il faut évidemment avoir un autre levier qui est, agir sur la durée, agir dans le temps, et puis surtout, puisqu'on n'a pas donc cette volonté d'occuper le terrain, mais cette volonté d'intervenir très vite et très fort s'il y a besoin, il y a évidemment un troisième levier dont vous aviez commencé à parler, enfin que vous avez évoqué en tout cas, qui est le renseignement. Alors dites-nous, comment est-ce que le renseignement a été modifié, et surtout, quelle place il a pris, comment est-ce qu'on l'a replacé dans le dispositif israélien à la lumière des manquements de 2006 que vous avez évoqués?
Alors, vous l'avez très bien dit, le renseignement, c'est quelque chose qu'on peut faire tourner en permanence, que l'on soit en temps de paix, en temps de guerre, en temps de crise. Donc, les Israéliens font tourner leur appareil et leur machine de renseignement très fort. Donc, le site du renseignement, même en temps de paix, on peut le faire tourner. On fait tourner les capteurs, on fait travailler les analyses, etc. Et on renforce les capacités. Donc, c'est pour répondre à votre question. Le renseignement a fait l'objet de faveurs très importantes depuis 2006. On considère que les budgets du renseignement en général, pas seulement renseignement militaire, ils ont été doublés depuis 2006 ou 2008. Donc il y a des sans parler des budgets militaires, le budget défense, il est quand même très élevé en Israël. Il est de 20 milliards de dollars, c'est un effort beaucoup plus important que celui qui est consenti par les nations occidentales. On est à 5% du PIB à peu près. Donc, renseignement, des budgets, ça veut dire des moyens en plus, beaucoup de moyens. Ils ont des drones. Hein, aujourd'hui, on a plus de 100 drones, et c'est pas des petits. Donc, des Héron, des Hermès, etc., qui sont qui sont bourrés de capteurs, des effectifs qui ont également qui ont monté en flèche. Songez que le renseignement militaire israélien, c'est 9000 personnes, c'est 8000-9000 personnes pour un pays qui fait 9 millions d'habitants. Donc ça pourrait faire rêver des grandes nations. Dans cet effort, il y a également une posture qui est très offensive en termes de manœuvre des capteurs et du renseignement. C'est-à-dire que pour la partie libanaise, pour le Hezbollah, la ligne bleue qui est la frontière entre Israël et le Liban, il y a des capteurs tout le long, des antennes, des caméras, etc. Il y a un survol quotidien d'aéronefs, 70% des drones et des avions. Donc le sud Liban et le Liban en général est survolé tous les jours ou presque par des avions. C'est une évidemment en contravention avec le droit international, puisque en principe le Liban est souverain et Israël ne demande à personne pour survoler son territoire, mais les Israéliens justifie cela en disant nous sommes toujours virtuellement en guerre contre le Liban, il n'y a pas d'armistice, ils nous considèrent comme des ennemis, donc on peut se permettre de survoler leur territoire. Donc il y a une posture qui est très offensive, posture offensive qui peut aussi se matérialiser par le soutien de groupes armés islamistes dans le plateau du Golan. Donc soutien voire manipulation au cours des années pendant la guerre depuis 2012-2013, il y a des rapports assez précis qui expliquent que les Israéliens ont aidé des groupes de différentes obédiences mais qui luttaient contre le Hezbollah. Donc il y a également un effort particulier qui est fait sur le front nord. Donc le commandement nord, c'est vraiment le commandement important. Donc il y a quatre commandements régionaux dans l'armée israélienne. Et le commandement nord, c'est celui qui est face au Liban et face à la Syrie. Donc jusqu'aux années 90, voire début des années 2000, il y avait la menace était un peu omnidirectionnelle. On craignait autant ce qui venait du sud, de l'est, etc. Aujourd'hui, enfin après la guerre de 2006, il est clair que c'est le Hezbollah qui est le plus menaçant. Et donc tout est fait en faveur du commandement nord, en tout cas la priorité des moyens, notamment des moyens renseignement. Pas seulement, hein, les commandants du front nord sont toujours des gens de très haut niveau. Hein. Actuellement, le SEMA et le SEMAT israélien, donc général Kohavi et général Strick, qui sont respectivement le SEMA et SEMAT, sont tous les deux dans...
Donc SEMA et SEMAT, chef d'état-major des armées, chef d'état-major de l'armée de terre.
Exactement, bravo. Précédemment, dans les commandes, il y avait le général Eisenkot, le général Benny Gantz, qui va être Premier ministre, hein, est aussi un ancien commandant du Front Nord. Donc c'est des gens, et souvent ces gens-là ont fait un ou deux passages en tant qu'officier subalterne, officier supérieur, avant d'en prendre le commandement. Donc on met vraiment le paquet. Lorsqu'on va faire l'allocation des moyens, des capteurs, sauf bien sûr contingence particulière ou priorité dans le sud, vers Gaza, c'est toujours le front nord qui aura la priorité. Et puis on peut dire aussi, ça c'est également tirer des conclusions de la commission Vinograd, il y a une plus grande décentralisation de la décision qui d'ailleurs va avec l'allocation des moyens au niveau tactique. Jusqu'en 2006, le front nord avait pas, le commandement nord n'avait très peu de moyens d'enseignement. Et donc il fallait qu'il demande, et pendant la guerre de 2006, ce qui s'est passé, il fallait qu'il demande un appui l'image ou un appui électromagnétique à Tel Aviv. À l'époque, jusqu'aux années 2000, c'était, je dirais, la manœuvre des capteurs image était dans les mains de l'armée de l'air parce que les capteurs image étaient embarqués à bord d'aéronefs. Et donc, l'armée de l'air n'avait pas forcément la perception et la compréhension dont avaient besoin les commandes tactiques sur le terrain en première ligne. Donc là, on a eu également un centre opération qui a été créé au sein de la MAN, la direction du renseignement militaire, qui assure une coordination plus fluide et une allocation plus efficace, plus agile des moyens en fonction des priorités opérationnelles du moment. Donc aujourd'hui, le chef tactique, alors un commandant de brigade, un commandant de bataillon, il va beaucoup plus agir et élaborer sa manœuvre en fonction du renseignement qu'il a. Si vous voulez, un chef de corps, un commandant de bataillon, jusqu'aux années 2000, même pendant la guerre de 2006, il se voyait confier la mission d'aller reconnaître un axe et puis reconnaître un village 2-3 kilomètres plus au nord, en territoire libanais, en territoire potentiellement hostile. Et s'il recevait cette mission pour la déclencher 2 heures plus tard, par exemple, il allait concevoir sa manœuvre et donner ses ordres le plus vite possible. Et il n'allait pas s'embêter à demander du renseignement à un échelon supérieur, sachant que le renseignement, il l'aurait peut-être le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, en ayant des moyens d'enseignement propres au sein d'une brigade, au sein d'un bataillon, et à plus forte raison au sein du commandement nord, le chef tactique, donc ce fameux commandant de bataillon qui soit confié à cette mission-là, même si c'est dans 2 heures qu'il doit partir, eh bien, il va demander à son équipe renseignement qu'est-ce qu'il y a sur cet axe, qu'est-ce qu'il y a dans ce village, et il va concevoir sa manœuvre donc son concept d'opération pour remplir la mission donnée à partir du renseignement. C'est le concept de guerre basée sur le renseignement. Ça veut dire intelligence-based warfare que le général Koravik et maintenant SEMA cherchent à inculquer et à diffuser à tous ses officiers.
Alors enfin, on va peut-être terminer pour, un autre niveau, un niveau plus macro, mais sur cette importance du renseignement, sur le fait que, ce qui est aussi très intéressant et que vous détaillez très bien, c'est qu'ils s'en servent comme support d'opérations de communication de ce renseignement, les Israéliens. Alors parfois, c'est amusant. Par exemple, comme quand ils injectent du ciment à haute pression dans les tunnels transfrontaliers et que du coup, ils font fuiter les images et on voit des entrées de tunnels qui sont noyées sous le ciment, donc ça c'est drôle, mais ça a aussi une vraie fonction stratégique qui est de montrer, alors au Hezbollah bien sûr, mais surtout aux Libanais probablement plus largement, que Israël sait ce qui se passe au Liban, et donc implicitement cette dissuasion dont vous parliez, c'est-à-dire l'idée qu'ils pourraient faire très mal s'ils étaient amenés à reprendre les actions directes.
Alors oui, vous avez très bien expliqué. Pour moi, cette affaire est un coup de maître. C'est à la fois le résultat de l'action du renseignement, des sapeurs, enfin du génie, également et de la communication. Et c'est vrai que on constate depuis assez peu de temps, depuis quelques années, je ne sais pas s'il y a des antécédents. L'utilisation du renseignement à des fins autres que le renseignement. En général, le renseignement est destiné aux gens qui ont besoin d'en connaître, selon l'expression consacrée. Or là, Netanyahu, pour pas le citer, le Premier ministre, a utilisé par trois fois au moins un produit renseignement et il l'a diffusé au grand public. Donc, dans mon papier, effectivement, je cite cet exemple du tunnel et je cite deux autres exemples qui viennent un peu plus tôt. L'un qui était en avril 2018, lorsque Bibi a fait une grande conférence de presse.
Alors, Bibi, on va répéter que c'est le surnom tendre et pas si tendre, d'ailleurs, voilà. Puisque tout le monde l'utilise de Benjamin Netanyahou.
Et là, il a dit, voilà, on a détourné 100 000 documents à Téhéran. Et ces documents prouvent que l'Iran avait un programme nucléaire. Il a dit « Ah, mais en fait, c'est des documents qui remontent aux années 1999-2002, je crois. » Ces documents sont là, ils sont en lieu sûr, mais voilà, on a dérobé 100 000 documents qui étaient dans les archives, et puis ils montrent le hangar où sont stockés ces archives. Deuxième exemple, c'est un peu plus tard dans l'année 2018, lorsque Bibi va à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, et là, devant toutes les nations, leurs représentants, il présente des photos aériennes du sud de Beyrouth, en particulier la zone de l'aéroport, dans laquelle il dit que sont enterrés des missiles et des roquettes du Hezbollah. Donc juste autour, il montre des photos. Donc quand il fait ça, on peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement il le fait à des fins politiques parce qu'on est en année préélectorale et que quelque part un contournement ou un détournement peut-être des moyens renseignement à des fins politiques. Mais il y a aussi effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait que ça concourt à la dissuasion. Parce que vous montrez à votre adversaire que vous savez ce qu'il fait et que vous pouvez intervenir à tout moment. Vous montrez également à l'opinion publique internationale, donc vous pouvez gagner des soutiens. Je pense que c'était le but de Bibi lorsqu'il a montré, il a dit qu'il avait des tas de documents qui incriminaient les Iraniens sur leur programme nucléaire. On était dans cette période préalable à la décision de Trump de dénoncer l'accord de Vienne sur le nucléaire. Donc il y a également une action, ces opérations ont des fins informationnelles, elles veulent jouer également sur les perceptions. Donc c'est ce que j'ai appelé dans le papier la rançon de succès. Voilà, le renseignement israélien est très performant, tout le monde le sait. Ben on l'utilise. On l'utilise à des fins politiques, c'est pas très bien. Et on l'utilise aussi à des fins de dissuasion ou informationnelle. Et là effectivement, il y a un véritable but.
Très bien. Ben merci beaucoup Olivier Passot.
Je vous en prie, Alexandre.
Je rappelle donc votre note de recherche, la numéro 87, parue en janvier. La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah, la centralité du renseignement qu'on trouve et retrouve donc très facilement sur le site de l'IRSEM. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. On est très preneurs de vos commentaires et de vos notes sur iTunes notamment, qui aident à faire connaître le podcast, qui nous aident aussi à avoir des retours sur ce que vous pensez de la forme et du contenu de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.